sûrement du mérite. Ou j'ignore ce que je rate, mais tu mérites. Et puis cette daube a été écrite à la hâte. Ce fond de teint va à ta robe favorite, mais en revanche, n'espère vraiment plus rien de cette voix ingrate. Ils disent le contraire, ne sont que des hypocrites.
Toi, tu cherches tes problèmes.
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoix. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
L'anticorps, la doublure, le doublon, canoncier dans le double fond, le faux fuyant, le mirage, dans lequel les chiens de garde n'apercevront que leur image, le plus parfait des parfaits camouflages, le trompe-l'œil épique, l'exacte réplique, au carbone 14, certifié authentique, mon 20 mesures cathartique a pris le maquis acoustique, ici la périphérie est au centre, et des territoires libérés s'inventent, au point du soir, au point d'ivoire, clair dans le noir, clé en main, claustro clandestin, les cleps au train, j'ai fait de l'angle mort de ma vie une métaphore.
Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices de Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 21h passé de 3 minutes. Vous êtes donc à l'écoute de l'émission Angle Mort, émission de critique sociale et de sciences sociales critiques. Le lancement un petit peu hasardeux parce qu'on s'est rendu compte que la bande 24-24 avait planté sans doute pour une question de coupure de courant. Et donc pour finir de m'installer, en fait moi je vais lancer un premier titre, je sais pas trop ce que c'est, on verra ce qui va partir. Mais normalement ça devrait être Yabasta. Gagné.
Guider les mots passés et mon passé vers la patrie en dur.
Voilà, donc toujours à l'écoute de l'émission Angle Mort, on s'est entendu à l'instant Yabasta avec le titre Système scolaire, un titre qui place le sujet de ce soir puisqu'on va diffuser la suite de la conférence dont on avait diffusé la première partie il y a 2 semaines. Conférence de Stéphane Bonnery, maître de conférence à Paris 8. Conférence qui avait été donnée en 2009 à l'IUFM de Poitou-Charentes sur le site de la Vienne et qui porte sur la construction sociale des difficultés scolaires ou on pourrait dire aussi des inégalités sociales devant la réussite scolaire. Et donc c'est une conférence qui apporte des outils de compréhension sur comment voilà, se construisent ce qu'on appelle généralement l'échec scolaire, ces élèves en grands échecs scolaires, etc. Et du coup pour penser aussi une politique de démocratisation réelle du système d'enseignement. Alors parce que je suis sympa et que ça serait un petit peu abrupt de balancer tout de suite la deuxième partie, je vais faire un résumé du propos de la première partie pour que vous puissiez suivre si vous n'avez pas écouté donc notre émission d'il y a 2 semaines. Autant que je vais essayer d'être le plus clair possible, hein, voilà. Et c'est ce que moi j'en ai compris en tout cas de cette conférence. Donc en gros c'est cette première partie, Stéphane Bonnery en fait donc s'intéresse aux élèves dits en échec scolaire. Et il analyse cette situation comme un processus déjà, hein. C'est-à-dire qu'il observe que les élèves qui finissent par être désignés au collège comme des élèves en grande difficulté, des élèves insupportables dont on ne peut rien tirer, des élèves en échec, etc., ont connu en fait dans un premier temps tout simplement des difficultés d'apprentissage sur des objets précis. Et donc déjà, un premier élément qui souligne, c'est que c'est un processus de rupture qui prend donc sa source dans des difficultés d'apprentissage scolaire. Donc ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de fatalité. Hein. Souvent on a le discours, de toute façon ces élèves on ne peut plus en rien en faire, etc. Dans le processus, effectivement, c'est des difficultés scolaires qui se sont accumulées. Mais il n'y a pas de fatalité, on peut changer ça, on peut trouver des moyens pour résorber ces problèmes. Un autre rappel, c'est que donc aussi il n'y a pas de hasard social, hein. Il existe des inégalités sociales devant la réussite scolaire. C'est les élèves dont on parle ici sont des élèves de milieux populaires, qui sont effectivement donc davantage touchés par les difficultés d'apprentissage, même si tous les élèves de milieux populaires ne connaissent pas de telles difficultés. Et pas de hasard social, mais, et aussi ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle biologique, hein, à l'origine de processus, en tout cas chez les élèves observés, c'est pas une question voilà, de déficit intellectuel ou de trucs comme ça, d'ordre biologique. D'ailleurs, par ailleurs, Stéphane Bonnery note que les élèves qu'il a suivis, ils viennent de familles qui ont plutôt des bonnes dispositions à l'égard de l'école. Hein, et plus généralement, son propos, il est intéressant aussi, je pense, en cela qu'il cherche pas des coupables, ni chez les familles qu'on va accuser d'être démissionnaires, non, c'est pas ça ce qui se passe, ni chez les élèves sauvageons, non, c'est pas ça ce qui se passe non plus, ni chez les enseignants et enseignantes, c'est pas eux non plus le problème directement. Et donc Bonnery part du constat donc que les enfants en rupture avec l'école ne l'étaient pas dans un premier temps. Donc c'est un processus et il s'intéresse notamment à la transition entre école primaire et collège parce que c'est notamment là qu'une grosse partie des choses vont se jouer dans les processus d'échec scolaire des enfants de milieu populaire. Et il va notamment s'intéresser à la contribution des dispositifs, ce qu'il appelle les dispositifs pédagogiques aux difficultés scolaires. C'est-à-dire que c'est au-delà de tel ou tel enseignant, il va observer des régularités dans les pratiques, dans les classes, qui vont donc générer, selon lui, les difficultés scolaires. Et il pose aussi, du coup, la question, de tel ou tel enseignant, mais des outils, des supports dont disposent, de manière générale, les enseignants. Bon, alors, le résultat principal de ces observations menées auprès donc d'élèves qui ont connu des difficultés scolaires entre les classes primaires et le collège, c'est que les élèves des milieux populaires, déjà, ils observent qu'ils ont un rapport à l'école qui se caractérise au départ principalement par une attitude de conformité. C'est-à-dire que, notamment, d'ailleurs, dans leur famille, on va leur dire tu écoutes ce qu'on te dit, tu te tais et tu fais ce qu'on dit de faire. Voilà. Et justement, il observe que ses élèves font ça, mais que précisément dans le système scolaire actuel, c'est pas suffisant pour réussir, parce que le système scolaire attend des élèves notamment une capacité à s'approprier des savoirs de plus en plus abstraits, de plus en plus conceptuels, de plus en plus complexes, de plus en plus dépersonnalisés. Et donc, c'est là où ils vont échouer, ces élèves notamment, c'est dans cette capacité d'appropriation des savoirs. Et ce que Bonnery essaye de faire comprendre, c'est que, en fait, le système scolaire attend des élèves qui soient capables non seulement d'être dociles et de faire ce qu'on leur dit faire, mais aussi de s'approprier, mais en même temps, ne va pas s'attacher à cadrer suffisamment le travail pour permettre à ces élèves de s'approprier les savoirs. Et donc, il donne un exemple dans cette conférence qu'on avait diffusée il y a 2 semaines, qui est représentatif, selon lui, de ce qu'il a pu observer dans différentes classes. C'est un exemple d'une classe de 6e, un cours de géographie, où l'enseignante, pour le coup, fait un cours sur le relief et propose donc, dans ce cadre, un exercice consistant à mettre les élèves au travail en leur demandant de colorier une carte en fonction des paliers d'altitude. Donc, la prof commence par dire, cette zone, on va la colorier en marron foncé parce que ça symbolise un palier d'altitude de plus de 1000 mètres, etc., etc. Et Bonnery, en fait, il raconte qu'en repassant plusieurs fois la scène, il s'est rendu compte que, en fait, les élèves, à partir du moment où la tâche concrète de coloriage était désignée, dans une attitude de conformité, d'une certaine manière, ils ferment les écoutilles et s'occupent de faire la tâche bien sagement. Et du coup, l'enseignante a beau, pendant ce temps, s'acharner à redire plusieurs fois pourquoi on va colorier cette zone de telle couleur, etc., l'attention n'y est plus, en quelque sorte. Et voilà. Et du coup, l'élève va colorier les zones selon la couleur, mais sans décontextualiser la notion là, de relief, etc. Et du coup, pareil, au moment de la révision, ils vont apprendre la carte qu'ils ont fait en classe par cœur. Donc repérer que telle zone, on va la colorier en telle couleur, etc. sur cette carte. Mais forcément, le contrôle va porter sur une autre carte, parce que justement, on attend donc une appropriation d'un savoir abstrait, d'une notion ici, plus qu'une habileté au coloriage. Et donc, certains des élèves, dont en l'occurrence, il prend l'exemple notamment d'un élève qui s'appelle Amidou, vont s'avérer incapables d'appliquer donc le principe et vont se sentir floués parce qu'ils ont le sentiment d'avoir tout bien fait, d'avoir révisé la carte qu'ils avaient fait en classe, etc. et que l'enseignant les a piégés avec une nouvelle carte au moment du contrôle. Et donc pour Bonnery, cet exemple illustre le fait que l'école attend des élèves donc une compréhension, une appropriation d'un savoir abstrait plutôt qu'une simple répétition de tâches concrètes, etc. En soi, on pourrait dire que, enfin, il le dit aussi, c'est plutôt une bonne chose, hein, et Bonnery n'est pas un défenseur du retour au passé, on va le voir là, dans la deuxième partie de la conférence, il n'est pas nostalgique de l'école de la Troisième République. Mais les dispositifs pédagogiques, selon lui, ne cadrent pas suffisamment clairement l'opération de cet apprentissage d'un savoir abstrait, donc de contextualisation et décontextualisation de notions complexes, alors même que l'école attend des élèves qui puissent le faire. Voilà, donc de manière générale, pour lui, les dispositifs ne cadrent pas assez l'activité de l'élève sur ce qu'il y a à apprendre, sur le rapport entre la tâche concrète demandée en classe et le savoir. Et donc de leur côté, les élèves de milieu populaire qui croient que l'école, c'est obéir au maître, et donc qui sont plutôt demandeurs de ce type de tâches un peu morcelées de répétition, ils n'ont que l'école pour acquérir le savoir, contrairement à d'autres qui peuvent s'appuyer sur leur famille pour transmettre donc des notions plus générales. Et donc, ils vont échouer et se trouver d'autant plus révoltés qu'ils croient avoir tout bien fait. Parce que donc, l'objectif de l'apprentissage n'était pas assez explicité, il était resté sous-entendu et de l'ordre du prérequis. Voilà, donc pour un rappel de ce que contenait, il y a d'autres choses hein, que je n'ai pas redit là dans la première partie de la conférence. La deuxième partie, ça va porter notamment sur déjà les contradictions donc, du système d'enseignement, comment il a été transformé, et on va voir aussi comment ces difficultés d'apprentissage, ça va fournir le terreau d'une rupture scolaire, donc d'un rapport conflictuel à l'école et aux enseignants et enseignantes. Etc. Voilà, donc je vous laisse le soin d'écouter la suite donc, de cette conférence de Stéphane Bonnery sur Radio Canu, émission Angle Mort.
Rapidement, je voudrais interroger ce qui structure ces dispositifs et que j'ai analysé sous forme de 3 séries de contradictions qui travaillent ces dispositifs. La première contradiction, c'est entre différents degrés du système. Autrement dit, un dispositif pédagogique, prenons le cas de la sixième, se voit influencé par l'aval du système et, je crois, de plus en plus par des savoirs savants. Par exemple, si on fait un comparatif avec ce qui était enseigné, avec la façon dont on enseignait le relief dans l'ancienne école primaire qui n'accueillait que les enfants de pauvres pendant longtemps, on l'enseignait de deux façons. Il faudra se rappeler que ces élèves n'étaient pas destinés à aller dans l'enseignement secondaire. Hein. On l'enseignait de deux façons. Première façon, on apprenait par cœur des cartes de géographie pour les réciter par cœur. Autrement dit, Amidou et ses copains auraient été probablement de bons élèves de la Troisième République. Deuxième façon, on apprenait par cœur des textes de manuels de géographie du genre « La Bretagne est rivée de criques escarpées qui s'étirent longuement, patati et patata ». C'est-à-dire qu'on mettait en discours, une notion qui était délivrée par l'école prête à l'usage. Et le pari pédagogique de l'époque, c'était qu'à force de répétition, peut-être les meilleurs comprendraient, passeraient le concours des bourses et iraient plus loin. Mais la compréhension n'était pas indispensable à la résolution de la tâche. C'est-à-dire, mesurons le saut dans le temps. Autrefois, le rapport entre l'objet réel du monde, je veux dire exprès de façon triviale, la côte qui fait mal aux pattes, là on est dans le registre de l'expérience sensuelle et ordinaire. L'objet réel du monde et sa mise en forme scolaire, je ne vais pas citer tout le monde, mais bon, c'est pas grave, et sa mise en forme scolaire était réalisée par l'école, était diffusée par l'école, et le transfert, la décontextualisation du cas appliqué à la notion et sa réapplication sur différents exercices était réalisé non pas par l'élève, même pas par le maître, mais par le manuel qu'il fallait apprendre par cœur, et peut-être on comprendrait. Aujourd'hui, pour réussir la moindre des tâches, c'est à l'élève de faire le transfert, de décontextualiser, de recontextualiser. C'est-à-dire qu'il y a une influence des savoirs savants sur lesquels je ne pleure pas, hein, on pourra en discuter après, mais je ne pleure pas quand on vit dans une société modelée par des savoirs de plus en plus cultivés, que le niveau d'ambition de ce qu'on veut enseigner aille croissant, c'est une bonne nouvelle, à condition que l'école se voit dotée des conditions et des dispositifs pédagogiques qui permettent de remplir cette mission, sinon on fait le grand écart. Et après, on se retrouve à des situations où on nous dit, vous voyez bien que l'ambition, ça sert à rien, il faut revenir en arrière. Mais bon, ça, c'était une parenthèse qui n'avait rien à voir avec ma casquette. Mais vous l'aviez compris. Il y a une influence par l'aval avec l'intégration de notions de plus en plus complexes. J'y reviendrai tout à l'heure, si j'ai 5 minutes, sur les albums pour enfants. Mais en même temps, chaque degré, là on est sur la sixième, se voit travailler par une influence de l'amont. C'est-à-dire, si on prend des choses qui ont leur sens en maternelle, mais qui, pérennisées jusque tard dans le système, posent question, le fait d'être sur une logique de la fiche toute bien faite. Une forme de pédagogie de la réussite pour avoir participé à l'activité davantage que pour avoir compris l'enjeu qui était dedans. Ce qui a son sens dans les premières années de scolarité pour mettre le pied à l'étrier, quand c'est pérennisé jusque tard, est-ce que ça pose pas un problème, surtout quand c'est télescopé avec un niveau d'exigence et d'ambition des savoirs qui va grandissant, influencé par l'aval. Et en même temps, un télescopage entre une pédagogie de l'encouragement, du bien vivre ensemble, de veiller à ce que chacun entre dans la tâche, qui est influencé de l'amont, je me plante, de l'amont, et qui télescope en même temps un héritage de chacun des degrés du système scolaire, en l'occurrence en sixième. Ça ne fait pas partie des traditions que vérifier que chacun des élèves rentre dans l'activité, parce qu'on suppose que c'est préacquis, même si de plus en plus aujourd'hui, de fait, on est obligé de s'y confronter. Donc il y a un télescopage de traditions, d'exigences et d'influences différentes, de différents degrés du système, dans chacun des dispositifs. Et, enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de dépasser l'opposition entre micro-macro et ce qui se joue de l'extérieur et de l'intérieur, c'est qu'est-ce qui se télescope à l'intérieur même de chacun des dispositifs. Deuxième contradiction, pédagogie ancienne et récente. Je fais exprès de ne pas labelliser tel ou tel courant, parce que ce que j'observe, ce n'est jamais, jamais, en fait, ni de la pédagogie dite traditionnelle, dont on ne sait plus trop bien ce que c'est, en fait, voilà. En tout cas, ce n'est pas forcément ce qu'on appelle ordinairement du frontal, du magistral, etc. Ce n'est pas ça. Mais ce qu'on observe n'a finalement pas grand-chose à voir avec ce que pourrait préconiser telle ou telle chapelle pédagogique ou didactique. Je ne suis pas pour l'application, pour un intégrisme d'application de telle ou telle religion pédagogique. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. La question, c'est si on combine des choses, quel est le caractère opérant de la façon dont c'est combiné? Qu'est-ce que ça produit à l'arrivée? Or, j'ai plutôt l'impression que, à juste titre, on a rompu, je dis à juste titre, parce que, de fait, les recherches et l'expérience ont montré que la forme leçon-application-contrôle, qui était longtemps en vigueur, posait un problème, c'est que les élèves voyaient rarement le rapport entre la phase d'application et la phase de leçon. Donc on a dit, on essaye autre chose. Très bien, l'école a changé. Sauf que ce qu'on observe massivement dans les dispositifs pédagogiques, c'est qu'on commence par une tâche appliquée, de coloriage pour le coup là, avec la carte de géo. Puis ensuite, rapidos, on formalise dans un recoin en rouge, ce qui n'est rien d'autre que la leçon de 3ème République présentée ensuite. Et on passe à la phase de contrôle, mais de toute évidence, les élèves ne voient toujours pas le rapport entre les deux phases. Voilà, en tout cas une partie des élèves. Et qu'il n'y a pas à choisir entre avant et maintenant, entre différentes chapelles. La question, c'est comment les élèves passent à côté, ou si on raisonne en tant que pédagogue, pourraient ne pas passer à côté du rapport entre les cas appliqués et les notions décontextualisées, ce qui est quand même l'enjeu de l'école premier. Donc, des modèles pédagogiques qui se télescopent, pour reprendre une formule de Jean-François Alté en didactique du français, ben, finalement, il y a un modèle didactique précédent qui a été chassé sans qu'aucun autre ne prenne vraiment la place, et on assiste plutôt à une combinaison bizarre qui a des effets qui interrogent. Troisième et dernière série de contradictions, mais je vais aller très vite parce que je l'ai déjà abordé, en fait, c'est la contradiction entre pédagogie pour tous et pédagogie adaptée. Mais en fait, ce qui pose question, c'est le modèle d'élève qui pilote les dispositifs pédagogiques. Et dans le même dispositif, il y a une partie de la séance qui est modelée par ce que tous les collègues auraient fait dans n'importe quelle classe, n'importe où ils auraient enseigné, et puis, pédagogie pour tous, et puis il y a une partie du dispositif qui est modelée par l'image qu'on a des élèves à qui on a affaire. Et qui me semble poser problème, parce que j'en reviens à la façon dont on nous impose des façons de penser, la manière dont a été vulgarisé le rapport du Haut Conseil à l'évaluation de l'école, dans sa vulgarisation, hein, même s'il aurait interrogé ce qui a produit ça dans le rapport et qui, à mon avis, n'est pas totalement étranger. Mais on nous a raconté dans les médias qu'il y avait d'un côté les élèves en grande difficulté d'un côté, et de l'autre côté, des élèves brillants, et au milieu, on coupe par tranche de 10%, là, et on a tout un dégradé. Et les mots qu'on nous impose ont un sens. Et parfois, ils nous empêchent de penser le problème. Qu'est-ce que c'est qu'un élève en difficulté? C'est-à-dire que c'est en lui. Ça vient de lui, c'était foutu d'avance. Et qu'est-ce que c'est qu'un élève brillant? Ben, c'est pareil, ça brille en lui, on n'y est pour rien. L'école est ainsi désignée comme un abat-jour qui n'aurait pour mission que de canaliser ce qui brille chez les uns et puis pour les autres, tant pis, il fait noir. Et je crois que ça nous renvoie à ce que je disais en introduction. Qu'est-ce que c'est qu'une école qui, à chacun des degrés, est surprise de ce que les élèves ne soient pas spontanément dans la lumière et dans la connivence avec ce qu'on va leur en enseigner? Et que ça interroge sur le modèle d'élèves qui pilotent implicitement les dispositifs pédagogiques, mais en amont, les programmes, les directives officielles, la formation, voilà, les instructions, les inspections, etc., etc. Et surtout, encore en amont, quel est le modèle d'élève qui pilote la mission que la société passe à son école, notamment dans la scolarité unique. Parce que, quand même, il y a des chiffres de l'ADEP qui sont peu connus, et que je me fais un plaisir de donner un peu partout où je vais, c'est que si on prend au niveau collège, pour lesquels on a des statistiques à peu près fiables, et qu'on compte par tête de pipe de collégiens, parce que plus les familles sont populaires, plus ils ont d'enfants. Donc si on compte par famille, on minore le nombre d'enfants de familles populaires. Bon, bref, donc comptons par tête de pipe de collégiens. Ce qu'on sait dans la base, je crois qu'elle s'appelle IPES, indicateur de performance des établissements scolaires, on connaît la profession du chef de famille. Donc comme j'ai déjà été trop long et qu'il ne me reste que 5 minutes, on dira du mal une autre fois la notion de chef de famille. Mais ça nous donne un élément indicateur, parce que quand même, en général, celui qui est déclaré, on peut imaginer que c'est souvent le plus diplômé des deux, mais même si ce n'est pas sûr, mais ça nous donne un indicateur. 54% des collégiens ont le parent référent qui est ouvrier, employé ou sans activité. 27% ouvriers, si on décompose, 27% ouvriers, 17% employés et 10% sans activité. Pour ceux qui ne sauraient pas, employés, en gros, c'est les ouvriers du tertiaire, c'est caissière à Carrefour. Hein. Donc, ce qui veut dire que dans un des pays de la planète qui a parmi les plus fortes corrélations entre le niveau de diplôme et le type d'emploi, cela veut probablement dire que la majorité des élèves de collège ont à la maison des parents qui ont un niveau maximum BEP. Ça va changer avec de plus en plus d'élèves qui passent le bac, mais ceux-là, ils ne sont pas encore parents. En tout cas, jusqu'en 2003, je crois que c'est les chiffres de 2003, c'était ça la situation. Autrement dit, un élève normal, c'est un midou, au sens où l'élève normal, c'est celui qui n'a que l'école pour apprendre l'école. Normal au sens de au moins la moitié. Là, c'est moi qui parle, hein, avec une casquette plus personnelle. Mais est-ce que les dispositifs pédagogiques aujourd'hui sont modelés par ce modèle d'élève-là qui n'a que l'école pour apprendre l'école, ou est-ce qu'ils sont modelés par d'autres? Pour le dire un peu trivialement, peut-être que ça mérite d'interroger. Dans une famille normale, quand on fait mettre la table à un enfant de 4 ans, ça peut être parce qu'on va manger et qu'on est pressé, ça peut être parce que c'est important que chacun mette la main à la pâte sur les tâches collectives de la socialisation. Mais une famille normale, il n'y a pas à attendre que ce soit une famille dans laquelle on va justement faire mettre la table à un membre de 4 ans, parce qu'à cet âge-là, c'est intéressant que de travailler le dénombrement, un coup sur les fourchettes, un coup sur les couteaux, un coup sur les assiettes. Ça peut, voilà, bon, ouais, chacun se reconnaîtra. Mais néanmoins, il n'y a pas à se flageller. Quand on a fait des études longues, on a des façons de raisonner qui sont modelées par la forme scolaire, par les savoirs savants. Il n'y a pas à se culpabiliser. Néanmoins, est-ce que les dispositifs pédagogiques aujourd'hui sont modelés en se disant que l'élève normal, c'est Amidou, ou en disant que l'élève normal, ce sont d'autres? Voilà, ce qui pose certainement des questions politiques sur les missions qu'une société assigne à son école, mais qui au moins, je crois, permettent de se déculpabiliser sur le plan pédagogique, parce que les problèmes auxquels on est confronté ne sont pas que des problèmes individuels, même s'ils ne nous déresponsabilisent pas. Tout le monde a pas échoué.
Voilà, toujours à l'écoute d'Angle Mort, émission de critique sociale et de sciences sociales critiques, avec cette conférence de Stéphane Baudéry. On fait une... Pardon. On fait une petite pause musicale avant de lancer la dernière partie et la fin donc de la conférence. Voilà, comme tout à l'heure, je sais pas trop ce qui va sortir de musicalement parlant. On verra. Ah si, je sais, ça va être F minus avec le titre Caught in Between. Donc ça va un peu déménager normalement. Voilà, à tout de suite.
Yeah! faux raccord. L'anti-mouchard, l'antidote, l'anticorps. La doublure, le doublon, canoncier dans le double fond. Le fond fuyant le mirage, dans lequel les chiens de garde n'apercevront que leur image. Le plus parfait des parfaits.
Allez, donc on lance la suite de la conférence de Stéphane Bonnery. Dans la suite de cette conférence, donc, il va aborder notamment... il va revenir sur son exemple de cette situation en classe de géographie où une partie des élèves, et donc notamment Amidou, se sentent trahis parce qu'on leur a pas mis la carte qu'ils avaient vue en classe, etc. et qu'ils n'avaient pas fait la décontextualisation de la notion par attitude de conformité. Ils s'étaient contentés de réviser leur carte et leur coloriage et où c'est qu'il y avait telle couleur et où c'est que telle couleur, et on leur a proposé une autre carte. Ils se sentent trahis, ils se sentent floués, c'était pas ce qui était entendu. Et donc je le dis en fait juste parce que l'enregistrement est un peu coupé sur le début, donc c'est pour resituer un peu de quoi il est question. Et donc voilà, de là, de ce sentiment de trahison, après il y a une manière de rationaliser du côté de l'élève la situation en percevant l'enseignant comme raciste, etc. Donc voilà, pour resituer un peu de quoi il va être question dans la suite de cette conférence, et puis après il y aura encore d'autres choses, etc. Voilà, Radio Canu, émission Anglement.
Au carrefour des massacres,
au point d'impact des colères,
à contre-courant vert,
et contre toutes les muselières,
à la périphérie des champs,
au cœur des poudrières.
Géographie, tout le monde n'a pas échoué. Eh ouais, me dit-il. Justement, moi je me demande bien comment il y en a qui savaient que ça serait une autre carte de géographie. Qui c'est qui le savait qui a pu leur dire, hein, à ton avis? Moi, je me demande, poursuit-il, et c'est là qu'on enchaîne sur la deuxième partie, moi, je me demande pourquoi tous mes copains à moi, les Noirs et les Arabes de la rue de l'Orion, on ne savait pas que ce serait notre carte, hein, et pourquoi tous les Blancs, les Noachis et Bouffons du premier rang, eux, ils savaient. Et ainsi de suite, hein, je vous ai parlé des détails, les noms d'oiseaux et tout ça. Hein. Mais, donc, évidemment, l'enseignante en question est insoupçonnable de racisme, de... voilà, bon. Mais il y a là quelque chose que je ne développerai pas, mais qui est un autre axe de mes recherches, c'est que ces élèves ne sont pas couillons, ils comprennent bien qu'ils sont victimes d'une injustice. Ils arrivent même à cerner qu'il s'agit d'une forme d'injustice sociale. Mais ils n'ont pas les clés de compréhension, ils n'ont pas les clés pour comprendre les mécanismes qui font qu'ils sont victimes d'une injustice sociale. Et donc, ils les attribuent à ce qui leur semble les éléments apparents de la situation, les plus rationnels, les plus compréhensibles. Et le même homme, Amidou, qui me disait 3 mois avant, tu sais, mon grand frère, il a été exclu du collège, il a dit à mes parents que c'était parce qu'ils sont tous racistes et des connards dans ce bahut, je ne le croyais pas. Je crois qu'il dit ça pour pas se faire engueuler. Le même homme, 3 mois plus tard, il a changé d'opinion. Hein, il est aligné sur la position du grand frère. Et il me semble qu'il y a la source à alimenter, comment dire, à ce que les difficultés sur le registre des apprentissages, par effet, quand ils se multiplient, quand ce n'est pas qu'une séance, qu'une situation, ça serait qu'une fois la carte de géographie, ça ne se produirait pas, mais quand ils se multiplient à ce point, finissent par décourager les mômes, qui arrêtent de travailler, et donc, cercle vicieux, moins ils travaillent, moins ils ont d'occasion de comprendre ce qui se passe, et donc, évidemment, bon, je ne vais pas jusqu'au bout, ce n'est pas la peine, et qui, parce qu'ils se donnent du mal, voient une attitude de conformité inopérante. Ça ne sert à rien de passer 2 heures à réviser des trucs quand on a 2 sur 20. Il arrive un moment, ça ne tient pas longtemps, cette affaire-là. Activité de conformité déçue, attitude d'appropriation toujours insoupçonnée, parce que sur le plan des dispositifs pédagogiques, ni le collège, ni l'élémentaire, pour ces élèves-là, hein, que j'observe, parce qu'ils finissent par avoir de grandes difficultés, ni le collège, ni l'élémentaire ne résout réellement le problème auquel ils sont confrontés sur le plan des apprentissages. Et ces élèves-là ne voient qu'une seule solution, c'est se réfugier dans une attitude de révolte, parce qu'au moins là, ils sont en partie maîtres de la règle du jeu, dont ils sont perdants, au bout du compte, parce que plus ils s'enferment dans des attitudes de révolte, bah, évidemment, plus ils sont condamnés à moyen terme sur le plan scolaire. Mais au moins, je vous renvoie à tous les travaux nombreux en la matière qui montrent comment ils sauvent la face. En plus, plus ils grandissent, plus ils rentrent dans le groupe de pairs au collège, parce qu'il y a l'adolescence qui rentre en ligne de compte, plus se joue la question où les enseignants et les copains disent la même chose, choisis ton camp, fais ton choix, et quand ils n'arrivent pas à gagner du côté du camp du maître, ben, autant ne pas perdre de l'autre côté, quoi. Bon, et où se mettre en place plein d'autres choses que la sociologie montre très bien. Mais ce qui m'intéresse là, sur ce second registre, c'est sur la signification par l'école ou pas, encore, de la manière dont il convient de combler l'écart social et culturel entre l'école et les familles populaires. Je le dis autrement, l'idée de handicap socioculturel dit une chose vraie, de façon, à mon avis, déformante, c'est que les élèves de familles populaires n'ont pas la même culture que la culture scolaire. Ok, il y a un écart, d'accord, jusque-là tout va bien. Sauf que, évidemment, dire que ça pose un problème, c'est un handicap que d'arriver à l'école sans avoir la culture scolaire, je ne vais pas le faire long, vous avez compris que ce n'était pas ma vision des choses. Au contraire, sur le plan citoyen, on peut penser que, justement, à l'école, on enseigne ce qu'on ne peut pas apprendre dans la plupart des familles. Bonne nouvelle, c'est pour ça qu'on les enferme 8 heures par jour. Je ferme la parenthèse. Donc, à partir de là, ça pose la question de la façon dont l'écart culturel est signifié. Or, et c'est un des éléments d'explication de ce qui se joue de différent entre l'élémentaire et le collège, à l'école élémentaire, pendant très longtemps, l'écart culturel est masqué, il est opacifié, par différents mécanismes sur lesquels on pourra revenir parce que je veux tenir le temps, mais en gros, les pédagogies de l'encouragement à tout prix, notamment quand c'est pas compris, masquent les difficultés auxquelles on doit se confronter pour apprendre. Et font presque de la difficulté scolaire quelque chose de honteux qui n'a pas sa place dans la classe. Or, le fait de se confronter à des difficultés et de les surmonter pourrait peut-être permettre à ces élèves d'identifier ce sur quoi il faut travailler, progresser, apprendre et en vrai. Donc, écart culturel opacifié à l'élémentaire, mais écart culturel dévoilé brutalement dans l'enseignement secondaire, sans avoir davantage, je renvoie au premier registre intellectuel, les clés pour s'approprier les savoirs. Donc finalement, ces élèves pensaient être conformes en élémentaire, et là, tout ce qu'ils comprennent, c'est qu'ils ne sont pas conformes, ils sont étrangers, ils ont affaire à une culture qui n'est pas la leur, à des savoirs de bouffons, qui se transforment vite en savoirs de blancs, par des mécanismes sur lesquels on pourra revenir si vous voulez, des savoirs de bourgeois, etc., mais qui sont rejetés, au lieu de penser que, justement, parce que ces élèves sont de familles populaires, ils ont tout à gagner à s'approprier les savoirs que les classes privilégiées se sont accaparées pendant longtemps. C'est pas comme ça qu'ils raisonnent, et du coup, ils sont perdants du jeu scolaire. Troisième et dernière partie en une phrase. Tout ce que je viens de vous dire, finalement, repose sur la question de ce que Bourdieu et Passeron avaient depuis longtemps appelé la question des prérequis, des implicites en matière pédagogique, et qu'avec des collègues, et moi plus particulièrement, on a essayé de regarder dans les mécanismes précis à petite échelle au travers desquels fonctionnent les dispositifs pédagogiques. Or, ces implicites, si je les ai regardés dans les dispositifs pédagogiques, il me semble qu'aujourd'hui, ils modèlent bien plus que les façons d'enseigner. Ils modèlent les outils, les supports matériels qui sont à disposition. On pourrait parler des manuels, mais je vais parler des albums pour enfants, puisqu'on engage une recherche collective sur laquelle, si certains d'entre vous sont intéressés, soit en tant qu'enseignants ou maîtres formateurs ou chercheurs pour nous aider, soit à coopérer, soit à recueillir des données, etc. Là, je vais à ma camelote, là, bon, voilà. On se laissera les coordonnées. Mais prenons un exemple précis. Qui est parti de l'idée suivante. Donc là, je ne suis plus sur du résultat de recherche, je suis sur la problématisation d'une nouvelle recherche pour laquelle on n'a pas de résultat. Tout part d'une discussion entre petites filles autour d'un goûter. Il y a une petite fille dont le papa est vendeur de pizza, et qui, la discussion porte autour de Shrek. Tout le monde voit qui c'est Shrek, le gros bonhomme vert, enfin voilà. Et la petite fille du vendeur de pizza dit « Ah ouais, Shrek, c'est rigolo », elle dit aux copines, en espérant que les adultes l'entendent pas, parce qu'il rote et il pète, hein, et bon, évidemment, tout le monde glousse autour de la table. Bon. Et une autre petite fille, qui ne se recrute pas au hasard socialement, complète en disant « Ouais, mais Shrek, c'est surtout rigolo quand c'est la princesse qui rote et qui pète. » C'est-à-dire que, bon, ça c'était un des détonateurs de ce qui m'a conduit à me dire « Il faudrait s'intéresser à certains trucs. » C'est-à-dire qu'il y a des supports culturels à destination de l'enfance, des objets culturels, qui aujourd'hui comportent des niveaux de lecture intégrés différents. C'est-à-dire que Shrek est construit systématiquement sur le détournement des codes du conte de fées. C'est parce que la princesse doit être tirée à quatre épingles, soit très blonde, soit très brune, mais rien entre les deux, très belle, très sage, très comme ça, bon voilà. Et donc, forcément, quand on va mettre une princesse, il faut que ça soit elle, l'ogresse au bout du compte, et qu'il fasse des trucs rigolos, bon voilà. Et ainsi de suite. Évidemment, le prince s'appelle Charmant, et tout sauf Charmant, et c'est un ignoble gnome égoïste et pas altier pour un sou. Bon, et ainsi de suite, on prend tous les codes et on les détruit un par un. Sauf que il y a une généralisation de ça qui fait que aujourd'hui, on suppose que le degré numéro 1 de connivence avec les codes du conte de fées sont acquis, donc on tourne en dérision et on passe au second degré systématique surtout. Et la littérature pour enfants, je veux travailler sur les 4-7 ans, avant même l'entrée dans l'écrit, est ainsi structurée. Je fais en deux secondes Le Loup est revenu, parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Le Loup est revenu est autour d'un principe, d'un personnage principal qui n'existe pas dans les contes classiques où un héros rencontre un loup. Monsieur Lapin ouvre son journal dans lequel il est dit le loup est revenu, il veut bouffer tout le monde. Toc toc toc, on frappe à la porte, il a peur, on tourne la double page, c'est les trois petits cochons qui disent t'as vu le loup est revenu, machin, est-ce qu'on peut venir s'abriter chez toi, on a peur, toc toc toc, on frappe à la porte. C'est la chèvre et les sept chevreaux, toc toc toc, on refrappe à la porte, c'est Pierre et le loup de Prokofiev, donc on n'est pas seulement dans le conte, on est aussi dans une culture quand même plus... Hein. Toc toc toc, il y a le mouton du loup et l'agneau, enfin l'agneau, et on fait défiler, je vais le dire avec les catégories du structuralisme dérivé de Vladimir Prop, en gros on fait défiler tous les actants des contes traditionnels qui ont eu affaire au loup en tant qu'opposant. Les spécialistes, on est d'accord ? C'est bien ça dont il s'agit. Donc, en fait, on suppose que les lecteurs enfants savent qu'il y a des contes dans lesquels le loup joue la figure du méchant. On va faire défiler tous les personnages qui ont eu affaire au loup en tant que méchant. Et on les réunit. Ils se mettent à table. Donc, la question de qui est bouffé est déplacée. Et à partir de là, on fait arriver le loup. Ils y pensent même plus, ils sont en train de faire un gueuleton. Tiens, qui ça peut être ? On n'entend plus personne. C'est le loup, il a très faim. Tout le monde lui saute dessus, il casse la figure parce qu'ils sont plus nombreux. Et là, c'est à ça que je voulais en venir. Dans le texte, Monsieur Lapin s'adresse au loup et dit « Loup, mets-toi bien ça dans la tête, nous n'avons plus peur de toi. Mais si tu promets d'être gentil et de ne vouloir manger personne, et là, gros clin d'œil à l'enfant lecteur, la phrase continue, à cette condition-là, alors, on veut bien être tes amis et tu pourras nous raconter des histoires de loups qui font peur. C'est-à-dire qu'on dit au lecteur, on sait que tu sais que le loup n'est que la figure du méchant qui, lorsqu'une fois qu'elle est installée, permet de jouer avec, de détourner les codes et en plus, on aime bien se faire peur parce que du coup, on sait que c'est la figure de la peur. Donc c'est ce clin d'œil-là qu'on fait en conclusion du livre. Autrement, et toute l'école des loisirs qui diffuse dans les écoles depuis 10 ans a sorti un seul livre, j'ai commencé à étudier le corpus, il n'y en a qu'un, c'est Plouf, où le loup est vraiment méchant. Tous les autres, le loup n'est pas méchant. Et après, c'est pareil avec l'ogre, le géant de Zeralda, etc. On pourrait les identifier tous. Donc, hypothèse de départ, la littérature pour enfants, c'est l'influence par Laval, là, intègre des prérequis de plus en plus forts de la culture savante, à la fois influencés par des théories savantes, structuralisme en littérature, psychanalyse d'Olto sur, à la hache, hein, vulgarisé sur la rédemption christiano-psychanalytique où il ne faut pas s'identifier à des figures entièrement noires, etc. Bon, bref, il y a tout un tas de vulgates qui sont intégrées dans les ouvrages et qui font que on met entre les mains des enfants des objets particulièrement complexes, ce qui pose certes la question de leurs usages on peut faire des choses formidables probablement en classe, à condition que on installe les référents, etc. Et sauf que, à condition que, dans quel dispositif pédagogique, j'ai été trop long, je mille fois pardon.
Mon nul faire, en quête d'un peu d'air pur ou d'un coin calme où m'asseoir. Si je marche sans faire d'histoire, limpide et sans mystère, il n'est pas rare que j'entende contrôle d'identité. Bonsoir, non, je ne vais nulle part, et puis je n'attends personne.
Ah, toujours l'écoute d'Angle Mort. Sur Radio Canu, c'était charmant. Donc c'était Stéphane Bonnery, une conférence sur la construction sociale des difficultés scolaires, une conférence qui date de 2009, dont la première partie a été diffusée il y a deux semaines et que vous pouvez réécouter, comme vous pourrez réécouter aussi cette deuxième partie sur notre blog d'Angle Mort, qui pour y accéder, il faut passer, le plus simple, c'est passer par le site internet de Radio Canu. Et d'aller sur l'onglet le blog des émissions et d'aller sur Angle Mort, et voilà, et vous tomberez sur notre blog sur lequel on met à disposition nos anciennes émissions. Juste très rapidement, pour noter que le projet qui est fait mention là, par Stéphane Bonnery à la fin de son intervention sur donc un travail sur les manuels, sur la littérature jeunesse, etc., a donné lieu à une publication récente. C'est un livre qui s'appelle Support pédagogique et inégalités scolaires. Qui plutôt voilà que de rendre responsables les élèves ou les enseignants des inégalités, il propose de s'intéresser aux supports pédagogiques, manuels comme album de jeunesse, à la manière dont il cadre le travail des enseignants. Il laisse beaucoup d'implicites. Dans une société qui requiert toujours plus de savoir, comment les manuels contribuent-ils aux inégalités sociales et scolaires? Donc c'est paru chez La Dispute, sous la direction de Stéphane Bonnery, et on retrouve aussi donc les chercheurs de l'équipe ESCOL. Voilà. Le propos aussi général qui soutient cette conférence, on peut le retrouver dans un livre aussi, mais j'ai oublié de le noter, celui-là, j'ai plus le titre en tête. Donc un livre de Stéphane Bonnery. Mais ça aussi, on pourra le mettre le lien sur notre blog. Voilà, donc je crois que à peu près tout était dit. Je pensais essayer de revenir sur la question, parce que là, c'est ce qui est sous-jacent à tout ce travail, c'est l'idée de démocratisation scolaire, l'idée de rompre les inégalités sociales devant l'école. Et certains pourront trouver que ce mot d'ordre de la démocratisation scolaire est insuffisant. Et moi, je voulais essayer d'anticiper un peu ces réticences en essayant de souligner en quoi, malgré tout, rompre avec les inégalités sociales devant la réussite scolaire est quelque chose d'important. Mais je me sens pas de le faire maintenant. Puis en plus, on n'a pas énormément de temps là. Il nous reste 9 minutes. Donc, à la place de ça, je vais passer de la musique. À savoir Anti-TAT avec le titre Hétéronome.
Cérébral. Les Grecs ont opté pour le système le plus évolué, où l'apanage des idées est regroupé dans 180 degrés et maintenant la nation remplace le clérotème. Voilà pourquoi les partis politiques agissent au moment des élections, contrôlant les médias, ils noyautent les syndicats. Oui, tous ces scélérats ont pour but de conquérir un électorat. Et à ce petit jeu-là, seuls les vieux loups ont une chance de faire la loi. Donc attention à toi, car tu vois qu'un carpent trame, mais les morts n'ont plus le droit de reposer en paix. Oui, beaucoup ici-bas se sont laissés aveugler et laissant accouler. Quand rouge et blanc ont été confondés, entraînés par les discours des mercenaires, démagogues, les autres fanatiques, ont tous intégrés malice. Car faisant fi de tout, ils font figure de fascisme. Non, pas de pas d'erreur, le militantisme trop fort pourrait faire qu'un jour le banc devienne le dictateur. Si leur sociopolitique ou religieux a consigné dans la
manne des idées
amorales, alors chaque ami s'y bat,
se doit d'ouvrir les yeux,
car la clé est l'enjeu du combat cérébral. Si leur sociopolitique ou religieux a consigné dans la
manne des idées
amorales, alors chaque ami s'y bat,
se doit d'ouvrir les yeux,
car la clé est l'enjeu du combat cérébral.
J'avais une meilleure image de ce titre avant de le passer. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté. Puis en fait, écoute, il est quand même un peu pourrave, je trouve, que ce soit au niveau de la parole comme au niveau de la musique. Bref, bon, j'ai essayé de me rattraper avec quelque chose d'autre. Et puis on va laisser la place à la causerie parce qu'il est 22h moins 3 minutes. La causerie qui fête sa 100e émission ce soir. Et donc on leur souhaite un joyeux anniversaire. Et puis donc, j'espère que là aussi, ça va être leur permettre de faire une belle transition, parce que je vais lancer du hardcore avec La Ghetto, donc du hardcore italien, je crois, et le titre Requiem for CP. Radio Canu, Angle Mort, à la prochaine.